bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla qui est au bout de
l'île,
Daniel Bonjour. Albert Albou, Alexis Rossignol, Frédéric Siris, Tanguy Passero sera tout à l'heure et nous recevons Afsia Herzi.
Bravo. Bravo.
On reçoit la réalisatrice et l'auteur avant de recevoir la comédienne, parce qu'on on avait l'habitude de recevoir la comédienne.
Aujourd'hui, elle n'est pas venue, la comédienne.
Non. Elle
est malade.
Elle est au cinéma.
Comment allez-vous?
Ça va, et vous?
Ben, en pleine forme. Et en pleine forme, et ravie de vous accueillir pour parler de ce film. D'abord, comment est née l'idée du film?
Alors, l'idée, elle est née de mon incompréhension des rapports hommes-femmes. Mon incompréhension de l'amour.
Ah, vous aussi.
Il y avait quelque chose d'autobiographique. Il y a quelque chose autobiographique.
Oui, cette incompréhension-là.
Tu mérites un amour.
Oui. Cette incompréhension-là et le sentiment d'être abandonné quand on est quitté ou quand on quitte quelqu'un. Enfin, le deuil amoureux. Enfin.
Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est quand on est abandonné par un amour, c'est pourquoi on s'accroche et pourquoi
parce qu'on en est malade.
Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi.
C'est un amour particulier, c'est toxique.
Non, mais c'est toxique, c'est un salaud. Oui. Il vous trompe, il fait tout et non, mais vous pleurez, vous attendez. Et s'il revient, eh ben vous êtes là, vous l'attendez, vous êtes prête.
Bah comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Ouais.
On ne sait pas, c'est incompréhensible.
Ça ne me suffira pas.
Non, mais quand on est d'extérieur, c'est sûr qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est et tout. Mais quand on
oui, elle s'abîme, elle s'esquinte. Et ça, vous l'avez vécu, sincèrement?
Non, mais j'ai beaucoup observé.
J'ai des copines.
Voilà. Et autour de moi,
on a tous. C'est comme Daniel Morin quand tu vas dans une pharmacie. C'est pour un ami.
On a tous une copine. Non, mais c'est vrai, on a tous une copine.
D'ailleurs, je vais arrêter de faire tes courses.
C'est universel, c'est vrai.
Qui nous raconte à chaque fois, des mois, à quel point elle le déteste. Et on lui dit mais pourquoi tu t'en vas pas?
C'est ça.
Et ben, 3 mois après, elle y est encore.
On peut pas juger.
Ah, mais c'est le problème. Je juge pas.
Il y a des amours nocifs, quoi.
C'est clair. Il faut avoir la force de passer à autre chose. Il faut être fort. Ouais. De toute façon, la seule personne qui peut s'en sortir dans ce cas-là, c'est nous-mêmes, quoi.
Ouais.
On peut pas nous aider. On peut écouter, mais voilà.
En tout cas, c'est un film d'abord agréable, tendre. Vous êtes de tous les plans, ce qui est agréable pour
vous. Vous êtes bien servi. Hein.
Parce que jamais mieux servi que personne.
Parce que c'est extrêmement bien joué. Et puis vous avez fait le casting. Réunis autour de vous. J'ai pas tous les noms de ceux qui sont. Alors,
oui,
mais celui qui est dans le lit. Non, celui qui est dans le lit
et qui
fait le playback. Alors lui. Tu le connais?
Ah bah Janice Bouziani, moi je suis amoureuse.
Il est dingue.
Ouais, il est formidable.
Il est dingue. Il joue bien, il est drôle. Et puis c'est le bon pote, quoi.
Le bon pote et qui incarne la tolérance. Et bon, il a pas toujours les bons conseils. mais il est formidable, vraiment. Et tous les acteurs sont vraiment formidables. Il y a beaucoup de jeunes aussi dont c'est la première fois à l'écran qui sont vraiment incroyables.
On va les citer. Ce film est sorti. On vous encourage à le voir. Réalisé, interprété, écrit, porté, incarné par Afsia Herzi qui est notre invité. Tu mérite un amour et bah vous méritez une interro. Allez, on y va.
Allez.
Tout se passe bien pendant le tournage justement du film, quelle démarche spirituelle Afsia Herzi a-t-elle faite avant de commencer le tournage?
Méditation.
Elle a prié
pendant le tournage.
Lévitation.
Priage.
La gare de Priage.
Maintenant, on est vendredi, pardon. Moi,
t'enseignais le latin.
Oui. La fameuse gare de Priage qui mérite une petite cymbale.
J'ai dit Priage. Bon, d'accord.
Vous êtes allé à Notre-Dame-de-la-Garde, c'est ça? C'est ça. À Marseille. Tout n'a été tourné à Marseille, non? Ou à Paris,
Non, tout à Paris. Mais donc moi, je suis de Marseille. J'allais la Bonne Mère, vraiment, c'est voilà, ça m'apaise, ça me donne de la force, quoi. Donc je suis allée avant et après à la Bonne Mère prier.
Et ça a fonctionné puisque tout s'est bien passé.
Elle m'a écouté.
Très bien, c'est gentil. Vous l'embrasserez pour nous. Elle a baptisé sa maison de production, justement, les films de la Bonne Mère. J'avais oublié de le préciser. Enfant, comment faisait Afsia Herzi pour se lisser les cheveux? Apparemment, ça marche encore aujourd'hui.
Au chalumeau.
Exactement.
Au chalumeau?
Non, le fer à repasser.
Ouais. Oui, c'est terrible.
Ah, j'ai fait pareil, hein.
Et les oreilles, les oreilles?
C'est une copine qui m'a écouté ça.
Moi, c'est le chalumeau.
Les oreilles, vous mettiez du papier alu?
Non. Que les, ouais, faire repasser.
Mais quoi, vous posez la tête sur la planche?
Voilà, et me repasser les cheveux pour
Mon
les lisser.
Dieu.
Oui, méthode quartier nord de Marseille. pour économiser le coiffeur.
Donc elle, ouais, puis ça marche en plus.
Oui, moi ça m'a un peu brûlé les cheveux, mais ça va.
Donc, ah, c'est du fer.
Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, on y va. Dans quelle grande série s'est-elle vue refuser un rôle lors d'un
Plus belle la vie.
Exactement. Ah ouais, t'as bossé, toi.
Carrément.
Ils vous ont pas voulu à Plus belle la vie, et grand bien vous fasse.
Oui, heureusement.
Pourquoi?
Bah, peut-être j'avais trop l'accent marseillais, vu que personne n'a l'accent.
Non, mais après, t'es un peu. Dans ce genre de. En plus, c'est une série, c'est une sitcom, quoi. C'est
ouais, que tu, ouais. Tu deviens... Ça marche bien.
C'est... Non, c'est pas le problème. C'est qu'après, comment sortir de là pour faire ton long métrage, l'écrire? T'as pas la même.
Ah, je sais pas, non, je peux pas te retrouver non plus. Déjà, je suis bon en pronostic sportif, je peux pas.
C'est vrai, c'est vrai.
C'était avant ou après Péchiche?
C'était avant, ouais.
Et vous l'aviez vécu comment, ce refus? D'abord, c'était le seul refus que vous ayez essuyé d'un casting, ou il y en a eu d'autres dans votre carrière?
Bah, non, je crois que c'était le seul casting que j'avais passé. Bah, non, ça va. Pour moi, c'était un exercice de toute façon.
Et genre, toutes les Marseillaises sont passées là-bas en disant on va jouer?
Bah oui, je pense, mais il y a pas beaucoup de Marseillais à Plus Belle
la Vie. Ils n'ont pas l'accent, ouais, assez à raison. Ils n'ont pas l'accent, dans Plus Belle la Vie, ils n'ont pas du tout l'accent de Marseille.
Et ça gêne les Marseillais?
Je pense pas, parce qu'ils regardent, ils adorent.
C'est leur ville. C'est leur ville. Comme un autre invité que nous avons récemment reçu dans la bande originale, Afsia a des phobies.
L'eau?
Les araignées.
Les clowns? Non. Les quoi, les?
La même phobie.
Les clowns?
Les clowns.
T'as peur des clowns, toi?
Non, mais il y a des gens qui ont peur des clowns.
Il y a des gens qui ont peur de toi aussi.
Oui. Mais c'est plus répandu, les clowns.
C'est la même. Les douaniers.
Les concombres.
Ah, toi, t'arrêtes. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait tes douaniers, toi.
Bah oui, je me disais ça.
Les concombres?
Les chats.
Mais ça va pas, toi.
On va s'arrêter deux
ans. Après le triage, les concombres.
Moi qui vois ces vidéos en ligne, des chats qui sursautent quand ils voient un concombre.
Si, ben oui, il y a que toi.
Non, mais attends, je te signale que. Faites une recherche, vous en supplie.
Afsia n'est pas un chat. Non, mais je sais pas qui pose la question.
Jamais je taperai chat et concombre sur internet. Jamais.
Moi, je l'ai tapé une fois, je peux dire que les vidéos sont différentes.
Alors là, il faut l'autorisation parentale. Ne faites pas ça chez vous.
Peut-on revenir à Afsia Herzi?
Les araignées, le noir, la foule.
Les noirs?
Le noir? J'ai dit le noir. J'ai dit le noir.
Ben le noir.
En direct, c'est
complet. Les radis noirs, par exemple.
Oh non, mais...
non.
Alors, je suis limite gêné.
Est-ce que c'est une phobie qu'on peut...
Concombre et noir, il y a un truc.
C'est une suite logique.
C'est rare comme phobie, ou pas?
C'est pas rare.
Les rats.
Exactement.
Ah, j'avais le mot dans la question.
Et les souris.
Exactement.
Les rongeurs.
Les souris, avions.
C'est François Damiens. Je sais pas si vous avez déjà joué avec François Damiens.
Vous le connaissez?
Il a la même phobie que vous.
C'est vrai, les rats?
Les rats, ouais.
C'est horrible.
Et vous venez de dire les autoroutes, comme Philippe Delerme.
Autoroute, avions, rats et souris.
C'est chiant quand on vit à Marseille.
J'ai plus de vie, quoi.
Mais non, les rats, il y en a. Non, mais à Paris surtout, il y a des rats.
Ouais, mais à Marseille, il y a eu pendant un temps une grève des
rats.
Des éboueurs.
Ouais, des rats.
Mais même à Paris.
Les rats qui font la trottinette sur le
toit. Vous en avez déjà vu des rats à Paris?
Énormément, oui, bien sûr.
Et pardon, dans ces cas-là, vous êtes dans le bureau.
Dans le bureau,
ouais. C'est vrai, dans le bureau.
C'est vrai? Je pars en courant à chaque fois.
Non, il travaille, il est payé. Est-ce que vous...
Et dans les restaurants à Paris aussi, hein. C'est horrible.
Je vous la laisse, les mecs, cette vanne. Est-ce que, dans ces cas-là, c'est une phobie, c'est-à-dire genre, un petit frisson, j'aime pas, ou alors vraiment vous êtes prise de peur?
Ah non,
une
grosse angoisse, ouais. Jure, je peux plus, je pars en courant... Vraiment.
Parce que pour vous, c'est quoi? C'est synonyme de saleté, de...
Non,
de...
j'ai peur.
Mais qu'est-ce qui...
Même les pigeons, j'ai peur des pigeons, là.
Ah, mais vous avez peur de tout.
C'est des rats volants. Hein.
Ouais, je suis un peu peureuse, ouais.
Non, mais peur de pigeons. Les pigeons ont plus de maladies que les... Ouais. Portent plus de germes, entre guillemets, que les rats.
J'adore le débat.
Non, c'est vrai. Il faut le dire. Acheter des enfants veulent toujours caresser les pigeons dans les parcs. Surtout pas.
Ah oui, faut pas,
Qu'acheter Afsia Herzi pour son premier cachet. Elle a touché un premier cachet. Qu'est-ce qu'elle en a fait?
Une statue. Une statue de la Sainte Vierge.
Non.
Quelque chose pour ses parents?
Oui.
Un appartement.
Une maison.
Non. Non,
une voiture. Un billet d'avion et de vacances.
Un fer à repasser.
Un beau resto.
Non, mais c'est
une machine à laver.
Exactement. Ah ouais. Bien joué, Albert. Pour maman.
Oui, la maman toujours. Ouais.
C'était alors déjà quel cachet? C'était pour quel film?
La graine et le mulet. Donc ça a été voilà.
C'était votre premier, tout premier.
Alors. Oui, tout premier, ouais. Et ouais, la machine à laver, voilà.
Faire plaisir à maman.
Et elle voulait pas en plus.
C'est-à-dire, elle a dit non, j'ai toujours fait mon linge comme ça, je change pas.
Elle avait à la main, je lui dis maman, la machine elle est cassée et tout, stop quoi. Et en fait, elle avait à la main genre depuis 3 mois. Et après, voilà, on a pu acheter.
Non, mais ça c'est les mamans où quand on veut même leur proposer une aide ménagère, elles disent non,
c'est impossible.
Mon linge, c'est moi et personne d'autre.
Faut lui dire que c'est gratuit, sinon elle le prend pas. Ouais, c'est ça.
Faut lui dire qu'on nous l'offre.
Oui, c'est ça.
Du coup, c'est gratuit.
C'est marrant, ça sent le vécu, tout ça. Alors, parlons de votre premier long métrage, Tu mérites un amour. Vous l'avez porté ce bébé, ce bébé pendant combien de temps?
Bah, 9 mois. Pied, ouais. Oui.
Vraiment.
Et enfin, j'ai écrit pendant 1 an et après entre le tournage, le montage et la post-production, 9 mois pile, ouais.
Il y a des choses que vous vouliez mettre et qui ne sont pas dans le film, où vous avez pu faire passer tous les sentiments, tous les moments de silence, parce que il y a aussi ces moments de flottement, d'hésitation, soit de rêverie ou de regard de sa propre situation.
Oui, j'avais envie de faire un film mélancolique et voilà, de prendre le temps pour certaines séquences et voilà, d'autres non. Quand il y a du dialogue, je voulais que ce soit très vivant, très frais. Et quand on est avec elle, seule, dans sa tête, je voulais vraiment prendre le temps.
Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas voir ce film sans se dire que c'est autobiographique, que c'est vous, soit vous réellement, soit vous fantasmé.
Plutôt fantasmé, oui, bien sûr. Oui.
Je t'en prie, Albert.
Moi, je dirais que c'est nous. Parce que
c'est
la portée
universelle,
employons des grands mots, pour ce thème qui est un thème de la littérature, du cinéma, la jalousie, la princesse de Clèves, Manon Lescaut, etc. Et là, traité de façon contemporaine, vraiment très originale et très émouvante, parce qu'on se retrouve tous à certains moments de notre vie dans ce personnage, fille ou garçon.
On est tous jaloux ?
Oui, je pense, oui. Franchement, je pense qu'on est tous jaloux.
Est-ce que quand on est forcément jaloux.
Je suis pas sûre que ça soit tant la jalousie.
C'est quand tu doutes que t'es jaloux.
Oui, c'est ça, quand on a un doute ou on est obligé de. Quand il y a quelqu'un d'autre.
Pardon ?
Nagui ne connaît pas le doute.
Oui, il a hésité quand même.
Non, j'ai hésité. Non, je pense que la jalousie est cachée au fond de nous comme une saloperie et qu'elle n'arrive que quand il y a
problème. C'est ça, quand il y a problème.
Il y a clash, c'est ça.
Ouais, c'est plutôt un amour malade plutôt qu'une forme de jalousie parce qu'elle est.
Elle se rend malade aussi.
Mais parce qu'elle comprend pas qu'il est pas clair avec elle, c'est pour ça. Elle veut des réponses à des questions.
Et alors, elle va jusqu'à investiguer, jusqu'à aller chez la maîtresse, demander à lui parler. C'est le tout début du film, donc je révèle pas tout ce qui va se passer ensuite. Mais elle n'est pas dans l'agressivité vis-à-vis de l'autre. En fait, elle en veut plus à son mec évidemment qui la trompe que à elle qui est allée le séduire.
C'est ça.
Mais c'est tendu quand même.
Pour moi, quand j'ai écrit,
mais il y a pas de bagarre. Elle va pas la gifler ou se battre. Quoi.
Non, pour moi, quand j'ai écrit, vraiment, voilà, elle veut comprendre l'incompréhensible en fait. Et du coup, aussi, elle veut pas trop perdre la figure devant l'autre et pas l'agresser. Enfin, elle veut comprendre l'incompréhensible, quoi.
Et quand même se laisser aller embarquer, soit par des amis, soit se dire mais pourquoi ne pas être ouverte d'esprit et de portable d'ailleurs, parce qu'il est très présent avec quel numéro de téléphone, comment draguer, comment suivre à l'étranger l'amour qui va partir, comment suivre ses achats sur internet.
Elle espionne, c'est pour ça.
Elle est malade. Parce que selon l'expression, quand on cherche la merde, on la trouve toujours. Donc
c'est sûr.
C'est une jolie expression.
Pascal.
D'autant que les réponses, en fait, elle les a.
Dès le départ,
elle a les réponses, mais elle veut pas entendre. Et donc, c'est juste le film, c'est le chemin de la réconciliation avec soi-même pour accepter. En effet, le travail, il y a que Lila qui peut le faire. Oui. On a beau lui dire autour d'elle, Samir Ghesmi le lui dit, Sylvie Federer, tout le monde lui dit, mais elle a besoin d'éprouver la douleur et d'expérimenter sans doute autre chose.
C'est ça. Et d'accepter le deuil aussi. Et la fin des illusions et de l'histoire.
Et puis aussi de vivre sa sexualité, soit en ayant différents partenaires, soit en partant dans des fantasmes. Ceux qui vous connaissent bien et qui ont vu ce film, alors je ne sais pas si vous avez fait une projection pour toute la famille, mais quels ont été les premiers commentaires de ceux qui vous connaissent bien ?
Ils m'ont dit bravo. Bravo, c'est bien, on a rigolé.
C'est vrai qu'il y a des bonnes
vagues. Non, mais ça va, franchement.
T'es courageuse ?
Oui. Ouais, ça, on me l'a dit, oui, t'es courageux. Je dis,
parce que quoi, c'est une mise à nu ?
Non, peut-être pour certaines scènes. Voilà, mais pour moi, c'est pas du courage, c'est de la liberté, en fait. La liberté et voilà, une forme d'expression. Mais ça, on me l'a beaucoup dit, ouais, courage, c'est bien, c'est osé.
Vous avez eu peur
moi,
de...
ça, je trouve pas que ce soit osé.
Du regard des parents sur le film ?
Non, pas du tout, non, parce que je l'ai.
C'est intime, c'est un peu intime quand même, non ?
Ouais, mais ma famille a l'habitude, quoi, avec les films. Ils savent que c'est du cinéma avant tout, quoi.
Tu voulais leur offrir une machine à laver, quand même.
Oui, voilà.
Ils savent que c'est du cinéma,
sauf que là, vous l'avez écrit. Vous pouvez pas dire, c'est le réalisateur c'est Kechiche qui m'a fait faire ça.
Ah oui, c'est
ça.
Sûr, ouais, oui.
Là, ça, vous pouvez plus vous cacher.
Non.
Donc, il y a un côté quand même psychanalytique dans l'écriture d'un film.
Oui, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup félicité, mais on m'a pas dit comment ça se fait que t'as écrit ça.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
Parce que disait Nagui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment autobiographique. C'était pour ça la première action de
ça
dire
vous va
ah,
bien.
C'est courageux.
Non, peut-être franchement, c'est pas autobiographique parce que je pense que
non, mais ça vous
j'aurais
va
pas
bien.
Pu aller au bout. Ouais.
Moi, j'ai pas eu de doute, je me suis pas dit que c'était votre vie, en fait.
Après, moi, je laisse.
C'est peut-être parce que c'est tellement bien joué que tu te dis, c'est pas joué. Donc
oui,
c'est,
puis ça correspond pas à
et
l'image que je me fais du caractère d'Avia, en fait.
Et la manière de jouer, on a l'impression que c'est dans de l'impro, que c'est un peu un cinéma nouvelle vague, quoi. Qu'on est,
mais c'est pas de l'impro, on nous le dit beaucoup, hein. Enfin, ouais. Même encore hier, il y a une projection, on m'a dit, est-ce que c'est de l'impro? J'ai dit, mais pas du tout, c'est très écrit, le scénario faisait 200 pages. Et je les ai rendus dingues à apprendre par cœur. je leur mettais la pression. Mais non, justement, je voulais que ce soit appris par cœur pour après, que ça fasse naturel. Quoi.
Est-ce que vous avez une pression supplémentaire d'être à la fois, auteur, compositeur, interprète, être devant la caméra et derrière la caméra, et puis de pouvoir rectifier des scènes ou les réécrire? Il n'y a pas un moment où on a une pression professionnelle un peu écrasante?
Alors non, parce qu'en fait j'ai auto-produit le film.
En plus?
Donc
il y a encore un job en plus.
Il y a un job en plus, oui, productrice, amateur, mais...
Mais productrice.
Mais productrice.
Avec votre boîte là, de
les films production de la bonne mère. Voilà, que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, parce que quand j'ai fait le film, j'avais pas de production. Et du coup, non, parce que vraiment au début je l'ai pris comme un exercice artistique. Je l'ai pas fait en me disant oui je vais à la Cannes, je vais faire ça, on va cartonner. Et à tous d'ailleurs, je leur ai dit voilà, c'est un exercice pour nous tous. Donc on est parti avec 1 000 euros de budget. On a fait le film. Après, je l'ai monté. On m'a prêté des salles de montage. On m'a aidé pour la post-production.
C'est fou.
Et
comme,
je l'ai envoyé à Cannes.
Comme si c'était un court-métrage, en fait.
Complètement. Ah oui, mais je crois que c'est le film le moins cher de l'année, c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait un film qui était fait à 150 euros.
C'est une façon de garantir le contenu, de se dire qu'on ne doit pas réécrire les scènes, on n'est pas lié à un producteur, à une production.
Non,
qui
c'est une liberté totale, vraiment. Ouais. Et après, vraiment sans pression, parce qu'au début, vraiment, moi, c'était pas... C'est pour ça que aussi, j'ai joué dedans, parce que j'avais pas trop le choix. Je me suis dit, voilà, si ça s'éternise, sur qui tu vas pouvoir compter.
Vous auriez aimé quelle comédienne pour votre rôle?
Franchement, j'avais pas d'idée, parce que j'ai décidé, je crois, un lundi, le jeudi, on tournait. J'avais aucune idée, mais il fallait quand même quelqu'un qui
soit... Ah oui, c'était au taquet, quoi. C'était...
Oui, vraiment, c'était une pulsion artistique.
Et vous avez quelle référence de réalisatrice ou de réalisateur pour travailler?
J'aime bien Andrea Arnold, qui est une réalisatrice britannique, et qui est chiche, évidemment. Grande source d'inspiration, c'est... Ouais.
Vous lui avez demandé des conseils?
Oui, il m'a dit j'ai pas le temps.
Ah, vous êtes resté très potes.
Mais c'est vrai que il voulait pas que je fasse le film comme ça. Franchement, il voulait pas que je fasse le film comme ça. Il m'a dit c'est trop compliqué. Dans quoi tu t'embarques?
Ça veut dire quoi comme ça?
On a tourné sans autorisation, sans rien. Enfin, mais je lui dis mais il y a rien de...
Faut préciser les autorisations quand on tourne dans une rue, particulièrement à Paris.
Oui.
Il faut avoir une autorisation de tournage.
C'est ça.
Parce que...
Je peux avoir des problèmes.
Mais non. Mais maintenant que c'est gratuit,
ça va.
Pardon?
C'est payant ou c'est gratuit?
Ça dépend, c'est des monuments ou pas.
Alors, faut pas filmer la Tour Eiffel, apparemment.
Faut pas filmer la Tour Eiffel de nuit.
De nuit. J'avais fait une petite scène, on voyait la Tour Eiffel de nuit, on m'a dit, mais ça te coûtait une fortune.
Vous savez pourquoi? C'est pas la Tour Eiffel qui est payante, c'est l'éclairage.
Ah oui?
Celui qui a fait l'éclairage a déposé l'éclairage comme étant une création. Et donc, si vous filmez la Tour Eiffel de nuit quand elle clignote, il y a des droits. Il y a des droits à payer à cette hauteur-là. Par contre, filmer la Tour Eiffel telle que, il y a
aucun problème. C'est pour ça que Fanny, moi, je ferme les yeux quand je la vois, parce que
j'ai pas les moyens.
Ah, pas les moyens.
Non, moi, je clignote, je cligne.
Afia Herzi, Janice Bouziani, Jérémy Laheurt, Anthony Bajon, Sylvie Vered, Karim Etmand, Myriam Djeljeli, Alexander Ferrario, Jonathan Epp, Sophie Garagnon, Brice Dulin. Alors là, Rachel et Bruno, c'est Jackie et Michel.
Ils sont magnifiques,
ils sont parfaits. Ça, c'est vraiment le couple de pervers dans le hammam.
Et ici, je peux vous le dire.
C'est tellement drôle. Non, mais en plus, avec l'accent du midi.
Avec l'accent du sud.
Bonjour, je suis le plombier, je viens réparer la maison.
La maison.
C'est du vécu.
Hein. J'ai pas osé dire la machine à laver. C'est celle de sa mère.
La retenue.
Mouna Soualem, Lina Soualem, Abdelkader Ogui, Donia Bouziani, Baptiste Cazenave, Montaigne Bouteillon, Tom Ouguenag, Samir Guesmi, qui est juste extrêmement drôle.
C'est
la phrase qu'il dit, c'est quoi? C'est tu le revois, moi je te parle plus.
Oui,
c'est la menace ultime dans la famille. Il y a Niro, Jérémy Attar, Daniel Di Grazia, Othman Mansour, Lilia Amish et Elisa Boutelja.
Et tout ça pour 1000 euros.
C'est ça, pour la bagatelle de 1000 euros.
Profitez-en, allez-y.
Je tenais à les citer parce que
ils sont excellents.
Sincèrement, ça sent la bande, ça sent en plus les amis qui jouent le jeu de vous faire plaisir et qui sont juste C'est-à-dire, on rentre vraiment dans, on est dans votre bande, quoi.
Naturel.
Oui, ouais. Ils sont passionnés, enfin, ils sont vraiment venus avec le cœur, parce que voilà, c'était, il n'y avait pas d'argent. Donc, vraiment, ils sont formidables.
Sauf si ça cartonne, non? Vous offrez pas une niche.
Il va falloir en acheter de l'électroménager si ça cartonne.
Un fer à repasser pour tout le monde, un truc sympa.
Un truc sympa. Non, mais en tout cas,
on vous encourage. Avec le recul d'ailleurs, vous êtes dans quel état maintenant que le film est sorti? Soulagé?
Ouais, ça fait bizarre. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ça y est, ça m'appartient plus.
Il y a comme un baby blues, il y a une petite descente.
Ouais. Ça m'appartient plus. Je me dis, voilà, maintenant, c'est le destin. Il a eu un beau destin et on verra, quoi.
On lui souhaite une longue vie, en tout cas ce film qui est à l'écran, allez le voir. Tu mérites l'amour et un amour. Ouais, c'est ça, qui est un poème de Frida Kahlo, qui est récité à un moment donné pendant le film et qui est un moment aussi d'émotion.
Magnifique,
ouais, super. Non, mais c'est aussi la scène est très
belle. Beaux tous ces garçons en plus.
Dis donc.
Regarder une vidéo de concours.
Attends, il y a Dumbo à un moment donné qui arrive là.
Mais il est super. Il est super. Mais moi je trouve très beau.
Mec jaloux.
Ouais. Pas jusque là, mais je trouvais très bien.
Toute une jeune génération dans l'impression. Pour ça que j'ai pensé à Keshis aussi, parce que c'est on a la sensation que c'est improvisé, que c'est la vie, qu'on saisit la vie en fait. Donc ça c'est hyper rare au cinéma. Et puis il y a des apparitions comme ça de jeunes actrices ou de jeunes acteurs qui sont. On se dit mais où étaient-ils tous
c'est pendant la France tout ce temps-là.
Ouais, voilà.
Ça ponctue le film. C'est très joli.
Vous jouez bien.
Nous deux The Band.
Ça, c'est des potes qui ont fait la musique?
Oui, c'est nous deux The Band, donc qui avait composé la musique de Sex Doll de Sylvie Vered. Sylvie Vered qui joue dans le film aussi.
Qui est dans le film.
Ouais. Hein. Et c'est magnifique ce qu'il fait, franchement. Ouais.
Voici François qui a des révélations, figurez-vous, sur Internet.
Salut les amis! Bonjour Nagui et coucou Avzia! Vous venez de l'évoquer avec votre finesse habituelle, Nagui.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu mérites un amour. Le titre du film est celui d'un très beau poème de la peintre mexicaine Frida Kahlo. Au passage, Avzian, quand le jeune barman photographe polonais timide, troublé, chamboulé, qui en pince pour Lila, lui dit, en s'enhardissant, qu'elle lui évoque Frida Kahlo, ok, c'est un beau compliment. Car c'était une artiste fière et passionnée, comme toi, Avzian. Mais tout de même, il pousse un peu la comparaison, car Frida Kahlo était moustachue, et pas toi, Avzian. Oh, la moustache velue. Bon.
Les sourcils.
Mais plus que ça. Mais revenons au poème qui se termine ainsi. Tu mérites un amour qui balayera les mensonges et t'apportera le rêve, le café et la poésie. Alors là, je me sens concerné parce qu'ici, à la bande originale, je vous kiffe tous et toutes, mais pas au point de vous apporter le rêve et la poésie. Et encore moins de vous apporter qui un espresso sans sucre, qui un allongé sucré au lait de chamel, qui un rhum planteur, je t'oublie pas Frédéric, qui un bon verre de vin rouge, je t'oublie pas Daniel, qui une tequila poppers, je t'oublie pas Leïla. Bref, je me dois de rêver. Allongé au lait de chamel. Bref, je me dois de révéler ce que chacun consomme. Car si je suis ici, et c'est ma mission, c'est pour balayer les mensonges. Le court, le long, ça nous ramène au cinéma. Et je dois dire que ton premier long, Avzian, il est très fort. Il est il est très dense, corsé à certains moments, très doux à d'autres, et toujours subtil. Enfin, dernière révélation, Avzian, si tu es là ce matin, c'est aussi parce que ce portrait d'une génération.
Ouais.
Et selon l'affiche, un film, Arte, un rock, Télérama, France Culture, Cosette, où écrivait Leïla. Et donc, un film tout naturellement destiné à la bande originale. Et non pas, si j'en croise Guenagui très indiscrètement dans les couloirs.
Qu'est-ce que j'ai dit encore?
Murmure, afin que personne ne l'entende. Pour cet escroc de trapenard. À peine bon à recevoir Sardou et Maître Gims, tout en confondant les deux. Ciao, Augusto, et bonne bande originale, les amis.
Merci, Albert Hugo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Tequila
Poppers. Ah, alors je t'expliquerai ça.
Faut aller aux soirées de Leïla. Ceci dit, le Popper, c'est présent aussi dans le film.
Ouais. En Colombie, en plus, il en prend.
Oui, il en recherche.
Alors que c'est vous qui lui avez amené, apporté l'idée de s'en servir.
Tu l'as fait découvrir.
Le Popper, c'est un détail, mais à ce moment-là.
Je vais vous donner la proposition.
Mais quand elle découvre que son copain est à la recherche de Popper, à ce moment-là, elle en rit même. même à un moment. Oui. Et donc, c'est le début
De la bascule.
De la bascule, un petit peu. Et c'est lié à des détails comme
c'est
ça
quand,
aussi.
Quand je pense que c'est moi qui lui ai dit d'essayer le poker et qu'il part à l'étranger et qu'il va peut-être le partager avec une autre fille.
Avec ce mec qui est une guêpe, en fait. Nerveux, et petit à petit, c'est une bascule à ce moment-là.
Et d'ailleurs, au cinéma, quand les gens rigolent, voilà, ceux qui rigolent, on se dit, bon, ils connaissent.
Oui.
Voilà.
Quoi donc?
Le popper.
Ah d'accord. Tu mérites. Je suis inquiet parce que j'ai ri, je connais pas. Tu mérites. J'ai jamais touché à ça.
Non mais non, moi, depuis le temps qu'on en parle, on n'a pas dit.
J'ai jamais touché à ça.
Non mais. Nagui, t'as tout
essayé. Bah
l'air nul. On dirait la vie est à l'enfer.
Mais Nagui, t'as tout essayé. Alors, je vais te faire une confidence. Non, mais je sais que toi, t'es dans la vanne. Non, j'ai pas tout essayé parce qu'il y a des choses qui me, comment dirais-je, qui me font peur par rapport à simplement la santé. Voilà, c'est simplement ça où je me dis, je ne sais pas.
Non mais pour un mec qui prend du crack.
C'est ça.
Oui, la peur.
Mais vous êtes sincère, deux secondes avec cette espèce d'alcoolo et ça sert à rien. Assis avec Silo aussi. J'arrête, je discute plus, moi.
Ouais, bon, ça va bien.
Bonjour. Ouais, ça va.
On va parler de courage aujourd'hui, messieurs dames.
C'est pas l'adresse.
C'est une belle qualité, le courage. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais enfin, c'est subjectif. J'en ai moins qu'un colleur d'affiche de l'UPR, par exemple. Quand je vois les affiches, je me dis toujours waouh. Ces mecs-là en ont quand même. Hein. Parfois, les gens me disent « Mais si, t'es courageux aussi, t'as abandonné ton métier pour te lancer dans l'humour. » Faux, je me suis fait virer, c'est différent. Moi, quand j'étais petit, je voulais être Jean du Voyage. Donc, Puis finalement, vous savez comment ça se passe, hein, les vicissitudes de la vie, le succès de Kenji Girac, l'inflation immobilière dans le monde de la caravane. Mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Là, par exemple, j'aimerais demander une augmentation, parce que je suis le moins payé de la bande. Mais j'ose pas vous en parler, Nagui, parce que je sais pas ce que vous allez me répondre, mais j'ai ma petite idée.
Ah bon?
Oui, j'ai une petite intuition. Je ne vois pas aller défendre mon dossier devant les RH. Et le problème...
En fait, t'es voyant, en fait, t'es pas humoriste.
Oui, peut-être aussi. Non, mais le problème, c'est que je sais ce qu'on se doit mutuellement.
Oui.
Et moi, je vous dois tout.
Ah bon?
Et vous, vous me devez rien. Donc, on n'est pas sur une base de négociation très avantageuse pour moi. Si vous me dites « Désolé, j'ai rien pu faire », je vous répondrai « Ok, ben merci quand même. » Comme la fois où j'ai voulu faire les chroniques du mardi, quoi. Après, bon, je me dis que les autres sont arrivés avant moi, donc il y a l'ancienneté, tout ça. Mais Agnès, elle est arrivée deux jours avant moi. Est-ce que ça compte vraiment comme ancienneté? En plus, c'est une femme. Selon les statistiques de l'INSEE, il y a vraiment un problème, là, tu vois. Moi, j'ai rien contre l'égalité homme-femme. Je veux dire, si ça arrive un jour, je m'y ferai, on s'habitue à tout. Mais de là, inverser les rôles, ça va, quoi. Bref, si je parle de courage aujourd'hui, c'est parce que mardi dernier, je monte dans le métro et je me retrouve face à deux jeunes qui écoutent de la musique très fort avec une enceinte Bluetooth. Vous voyez le genre de jeunes, là?
Un genre qui fait partager tout à tout.
Ouais, voilà, le genre, qui, on fait chier tout le monde parce qu'on sait que personne va rien nous dire.
C'est ça. C'est ça.
Je sais pas quel fabricant a inventé les enceintes Bluetooth, mais on lui doit aussi les petits cons qui vont avec. C'est le problème des inventions, hein. On n'anticipe pas toujours les effets pervers. Quoi? Des civils tués au Yémen avec des armes françaises? Mais comment on n'avait pas pensé à ça?
Ouais.
Donc pour en revenir aux jeunes du métro, ils écoutaient leur musique fort tout en demandant de l'argent aux gens. Il y en a qui doutent de rien. C'est un peu comme les autostoppeurs qui font du stop torse nu avec un chien et une roulée dans la bouche. Et quand les gens leur passent devant, sans s'arrêter, ils font
un salaud.
Ouais, comme si ça semblait anormal qu'ils soient pas pris. Toi. Alors le plus grand des deux, il m'arrivait là, à la poitrine. À 1m45 du sol. J'ai mesuré en rentrant chez moi, parce que je me suis rendu compte que j'ignorais complètement à quelle hauteur se situait ma poitrine.
Oui.
C'est fou le nombre de choses qu'on ne pense pas à mesurer. Par exemple, 18 cm, vous savez ce que c'est chez moi? La taille de ma main. Ouverte en grand, évidemment. Mais, voilà.
Ah oui, du pouce à l'index.
Exactement.
C'est ça.
Donc c'était des enfants, mais avec des têtes d'adultes qui font peur.
Pardon, mais du pouce au petit doigt, excuse-moi. Ça fait.
Ça vous dérange
auriculaire.
Pas?
Non, non, non. C'est important de savoir.
Oui, c'est vrai. Ouais.
On est à 20 cm à peu près comme ça. C'est important, non?
Ouais.
Tout à fait.
Il est petit.
Et puis tu gagnes du temps sur le.
Exactement, j'allais le dire.
Droit.
On a résolu le.
Ouais, ça y est, j'ai mesuré.
Ok.
Moi,
bon.
Je suis à 21. Hein. Ah, on parle des mains.
Bref.
Courage, courage.
Donc c'était des enfants, mais avec des têtes d'adultes qui font peur, tu vois, genre Christopher Walken ou Christophe Ondelat, vous voyez ce genre de... Hein, à côté de moi, il y avait deux dames âgées qui me regardaient l'air de dire « Si nous agresses, tu nous défends, hein. On compte sur toi. » Et moi, je les regardais l'air de dire « Vous vous faites pas agresser, hein. Je compte sur vous. » Moi, théoriquement, je sais me défendre. Hein. Tu vois, j'ai pris des cours de Krav Maga, je peux maîtriser n'importe qui. Faut juste qu'il se laisse faire et qu'il me dise de quel côté il va attaquer. Et si c'est une attaque au couteau, faut que ce soit un couteau en plastique. Voilà. Vachement utile à l'heure du déjeuner si tu te fais attaquer par un mec qui a trouvé son couteau dans une salade Sodebo. Mais là, j'aurais rien pu faire. Ils étaient deux. Et comme disait Dodo la Saumure, la vie, c'est comme une boîte à partouze. On sait jamais sur qui on va tomber. Alors, est-ce que ça valait le coup de prendre des risques alors que je pouvais lâchement atteindre la prochaine station? Je suis pas sûr, tu vois. Et puis, les petites vieilles que, soi-disant, j'aurais dû défendre en cas d'agression, si ça se trouve, elles martyrisent leur chat, tu vois. Si ça se trouve, elles ont couché avec des Allemands, on sait pas. Parfois, on croit aider les bonnes personnes, puis on se trompe. Alors oui, je manque de courage, mais au moins, je prends parti pour personne, parce que la violence, c'est mal. Voilà. Nagui, vous m'oubliez pas pour l'augmentation, hein? Allez, c'est fini. Merci beaucoup.
Merci, Alexis.
Bravo.
La bande originale. Et tu préfères en référence Dodo à Saumur que Forrest Gump, tant qu'à faire le hasard.
C'est un jeu de mots.
Le hasard de la vie.
Et on retrouve Alexis Le Rossignol au Point Virgule tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h.
Merci.
Ça fait partie de la bande originale. Vous la connaissez par cœur. Oui, vous la chantez même dans le film.
J'adore cette chanson.
En playback. Oui. Pendant que toutes les fesses sont en train de bouger autour de vous, vous restez tranquille en train de chanter cette chanson. Et puis il y a des scènes qui sont à pleurer de rire.
La scène du marabout.
Ah ouais, forte.
Quand vous allez consulter le marabout, quel marabout de Carla.
De Carla.
De Nicolas Sarkozy. D'Emmanuel Béart.
Qui est une superstar.
Je suis une star.
Je suis une star.
Je supporte pas.
Il est censé faire revenir l'amour en fait.
C'est ça, oui. Mais vu que le personnage de Lila n'a pas respecté les règles, voilà, ça se passe pas comme prévu.
Est-ce que vous avez déjà fait appel à un marabout ou est-ce que vous...
C'est tentant, hein.
Vous y croyez?
Alors, non, parce que j'ai peur, mais ça m'a toujours passionné.
C'est comme Hell Poppers, en fait.
Non, ça m'a toujours passionné. Ces histoires de marabout. En même temps, dans le film, je le traite avec légèreté et humour, mais il y a des gens vraiment qui tombent dedans et qui ne s'en sortent pas. Et c'était, je voulais raconter le désespoir, voilà, où le désespoir.
Oui, puisqu'elle est quelque part, il faudrait pas qu'elle se fasse exorciser, c'est ça, parce que elle est envoûtée par cet amour et elle va voir un marabout
pour la soulager.
Et il faut quoi, 150 euros, un sac de course.
C'est ça. C'est drôle. 150 euros, un sac de course et un bijou. Voilà.
Il y a une série documentaire sur Le Monde qui est très intéressante. C'est une journaliste qui va voir un marabout et qui relate son expérience. Et surtout, elle parle justement de ses dons en nature et en cash également, quoi.
Ouais, il y a beaucoup d'histoires autour de ça, ouais.
En tout cas, tu mérites un amour et drôle, touchant et bien joué, naturellement joué, j'ai envie de dire. Et tout ça mené par Afia Herzi. Justement, on parlait de Matthew Stone. Vous m'écoutez, du moins.
Ouais, magnifique. Qui a marqué toute une génération.
Et ben justement, on va s'intéresser à la musique dans votre vie, Afia, notamment dans les années 87.
Ouais, la star.
Ouais. Il fallait aussi que ce soit dans la BO du film.
Ouais, j'adore Ophélie Winter. Franchement, et après je l'ai contacté, donc après le film. Et trop sympa, quoi.
Vous l'avez contacté pour l'autorisation de d'utiliser la chanson?
Oui, ouais, parce qu'en fait, moi.
C'est pour ça que dans les remerciements, il y a Nakache.
Elle est, franchement, Marc Nakache, magnifique. Et j'ai réussi donc à avoir son contact. Je lui ai expliqué, j'ai fait un film comme ça, là, j'ai pas d'autorisation, le film a été pris à Cannes. Elle m'a dit, je te donne tout. Cool. Elle a même pas vu le film.
Et dans les années. Fin des années 80, il y avait aussi. À la télé.
Oui.
Ah bah oui.
J'adore.
La petite maison.
La petite maison dans la prairie. Ouais.
Vous revoyez le générique quand vous entendez ça, vous...
Ah, j'adore. Je sais pas, c'est Madeleine de Proust, j'aime trop.
C'est vrai que psychologie, ça faisait un bien fou, quoi.
Ouais.
Il y a certains épisodes.
Ah ouais, non, c'est lourd. Ah
ouais. Qui étaient durs. Oui, mais c'était franchement, c'était bien joué en plus.
Ah ouais.
Mais c'était chouette.
Ah oui, mais quand il y a la sœur de Nelson Son qui redébarque avec son cirque itinérant, et il veut pas dire que c'est sa sœur parce qu'elle est trop grosse pour lui.
C'était bien joué, non, vraiment.
Ah non.
Nelly Olson, elle était magnifique. Ah ouais. Et
puis l'orphelinat de Marie avec ses enfants qui crament.
Tout le monde a regardé, tout le monde a regardé.
Et l'autre qui tombe tous les jours en courant dans le
monde.
Oui, tous les jours là-bas.
Elle s'est pas marché, elle tombe.
C'est vrai qu'elle était un peu conne.
On est en 87, Afia. C'est l'année de votre naissance.
C'est ça.
Vous êtes née à Manosque, vous avez grandi donc à Marseille. Vous avez rendu hommage tout à l'heure à votre maman.
Et à Darty.
Non, parce que c'est important de parler de votre maman qui était femme de ménage.
Oui.
Vous étiez 6 enfants.
4.
4 enfants, Et 4. Elle s'est occupée de vous toute seule?
Oui, toute seule, c'est une femme courageuse et une grande source d'inspiration. une grande fierté d'un
faut
moment.
Faut juste préciser que vous avez perdu votre papa très jeune. C'est ça, pas, oui, c'est pas papa qui a quitté le foyer.
Oui, c'est, voilà, c'est la vie.
Il a malheureusement quitté la vie, oui.
Et à l'école, vous étiez une showgirl déjà?
Non, j'étais très discrète. J'étais
en tout cas, moi, ce que j'ai, c'est que sur les bulletins,
il y avait de Philly Winter.
Non. Sur les bulletins de classe, il y avait écrit se croit trop au cinéma, adore lire des poèmes en classe, attend les applaudissements. Enfin, en tout cas,
ah
avait...
bon, non, ouais. Ouais. Non, mais j'étais très forte en poésie, en littérature.
Vous vouliez
mais...
faire le spectacle. Vous aimiez être en représentation.
Pas trop, non. Franchement, j'étais timide. J'aimais plutôt observer. J'adorais observer et regarder. Mais sinon, ouais, littérature, tout ça, j'étais
Et les premiers flirts à l'école quand on est adolescente,
ça ne regarde pas
les premières histoires d'amour.
Parce que
quand on est timide, quand on est réservé comme vous l'êtes, est-ce que on fait peur aux garçons ou
Bah il y avait même pas de garçons parce que c'était vous savez enfin non. Marseille quartier nord c'est plutôt les filles qui ont on va dire le pouvoir dans la cour de récréation et on n'est pas très romantique quoi. C'était pas très romantique quoi.
Ouais. Ça se fait pas d'aller voir les garçons quand on a 14 ans.
On leur parlait même pas On leur parlait même pas. Ils avaient peur de nous, même. Moi, ça va, j'étais douce, mais j'avais des copines. C'était franchement... Non, ils avaient peur, les garçons, nous.
En 2005...
Pas le temps pour ça.
En 2005, vous écoutiez...
Je m'oublie quand je vois ton corps bouger sur le dance floor. Sexy sous la belle.
Ça aussi, c'est dans la BO.
Ouais, j'adore. Moi, je suis une grande fan de Matt Houston, vraiment.
En fait, la BO du film, comme par hasard, c'est la BO de votre vie aussi.
Oui, parce que ça a marqué ma vie, franchement. Bah, notamment cet artiste-là, qui est auteur, compositeur, magnifique, et qui, pour moi, m'a fait rêver, en fait. Ces gens-là m'ont fait rêver, vraiment.
Et en 2005, Avzia, alors dites-moi si j'ai juste. Vous débutez des études de droit.
Oui.
Mais en réalité, vous vouliez être infirmière.
Et en fait, non, je voulais pas être artiste, mais voilà, il y avait la réalité de la vie. Ouais. Et j'avais passé le concours d'infirmière, ouais. Mais je l'avais pas eu. Ouais.
Et pourquoi infirmière ?
Moi, parce que j'aimais bien. Je me suis dit, voilà, autant se rendre utile, quoi. Ouais.
En fait, il fallait de l'argent pour faire la prépa.
Oui, c'est ça. Ou sinon, c'était un concours, mais je l'avais pas eu, quoi.
Ouais. Et à ce moment-là, devenir actrice, c'était devenu quoi ? Une sorte de
rêve ancien
qui s'était un peu dilué avec le temps ou...
Non, mais pas parce que j'y croyais pas en fait. Je me suis dit, voilà, on verra, c'était vraiment un rêve quoi. Et après, quand ça arrivait, bah voilà, c'était.
Et c'est là qu'arrive le tournage avec Abdelatif Kechiche, La Graine et le Mulet, qui a été un film qui a vraiment beaucoup marqué. C'était en 2007, deux ans après.
Comment vous tombez là-dedans ?
Ouais. J'avais fait donc de la figuration sur un téléfilm à Marseille et j'étais allée voir la directrice de casting. Je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux me donner les adresses des autres directeurs de casting? À l'époque, il y en avait une dizaine. Donc j'ai envoyé mes photos et en fait, elle avait gardé ma photo dans son dossier. Et donc elle m'a appelée, elle m'a dit voilà, j'ai reçu votre photo un jour, est-ce que vous voulez venir passer un casting? J'ai dit ok,
et
voilà.
Et que disaient la famille, votre maman, les tantes, les oncles?
Vous ne l'aviez pas prévenu, je crois.
Quelle image on a du cinéma quand on n'y est pas dedans?
Alors oui, alors ma mère, elle m'a toujours encouragée, mais je lui ai dit vraiment quand j'ai été prise, quoi. Et non, elle m'a fait confiance, franchement. Elle savait que voilà, elle pouvait me faire confiance. Mais elle m'a toujours encouragée, oui. Après, bien sûr, oui, fais attention, la drogue, les machins, tout ça.
Les poppers.
On met rien dans ton verre, oui.
Pour des animateurs télé, tout ça.
Par amour, elle m'a fait confiance, franchement, parce que je pense qu'elle a dû vraiment s'inquiéter, ce qui est normal, mais voilà.
Et tourner avec Kechiche, j'imagine que c'est là aussi que naît l'envie de réaliser.
Complètement. Ouais. Bah, déjà, j'écrivais des histoires, des scénarios qui ressemblaient pas à des scénarios, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Et vraiment, quand je l'ai vu travailler, je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. Et un jour, je veux diriger une équipe, filmer.
Et il dirige comment? Il vous dirigez comment, vous? Parce qu'on entend beaucoup parler d'Abdelatif Kechiche, de ses méthodes qui sont plus ou moins controversées selon les déclarations des comédiennes qui ont collaboré avec lui, mais vous, votre expérience à vous, et ensuite ce que vous en faites sur le tournage de Tu mérites un amour.
Bah pour moi, c'était la plus belle des expériences de ma carrière jusque-là. Et encore, à chaque fois que je retravaille avec lui, non, il aime les acteurs, et d'ailleurs, ça se voit dans sa manière de les filmer. Enfin, quand si on n'aime pas un comédien, on ne peut pas le mettre en valeur, c'est impossible. Et non, ouais, il aime les acteurs, il les met en valeur, il
est dur, fait confiance. Il est
franchement, non. Ouais. Franchement, vraiment, pas du tout.
Comment on explique ce gap entre
je comprends pas.
Votre pourquoi vision à vous
ça,
et...
ouais. Pourquoi on entend
pas.
Ça
Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est injuste parce que c'est juste une personne qui veut faire ses films tranquillement dans son
coin. Vous en avez parlé aux comédiennes qui exprimaient justement cette espèce d'obsession psychologique?
Non, on n'en a pas parlé, mais franchement, c'est n'importe quoi, parce que c'est juste un passionné. Et d'ailleurs, quand on voit les films, je veux dire, il peut pas être horrible, comme on dit, et filmer les gens comme ça. C'est pas possible.
Quand vous avez vu La Vie d'Adèle, est-ce que vous auriez accepté de jouer le rôle de l'une des deux, ou est-ce que vous avez même dit à Kechiche pourquoi tu m'as pas proposé le rôle?
Non, parce que voilà, enfin chacun, c'était son désir artistique, mais je sais pas non si j'aurais pu faire accepter de jouer dans le film, mais ouais non, moi j'ai trouvé le film magnifique. Et après je sais pas si j'aurais pu le faire, ouais, honnêtement.
Parce qu'il y a des limites entre accepter un rôle et, accepter toutes les scènes.
Ouais c'est ça, et que je sais pas, non je pense pas franchement.
Parce que dans Make to My Love aussi incarner le personnage d'Ophélie Beau, là c'est quelque chose, que ce soit dans le premier volet avec la scène d'ouverture qui c'est une scène de sexe, hein, on va le dire clairement, et dans le deuxième volet qu'on n'a pas encore vu avec cette scène d'un cunnilingus, hein, c'est ça qui dure 14 minutes, un truc comme ça.
C'est un peu long.
Non mais voilà, est-ce que ça c'est pareil, ça doit être des propositions compliquées à accepter.
Ah oui, c'est sûr, ouais. Non mais j'ai beaucoup de respect pour elle, après, de toute façon c'est un film, c'est du cinéma, hein, c'est pas pour de vrai, non, c'est pas pour de vrai. Non, c'est vrai, c'est pas pour de vrai.
Oui.
Mais je sais pas, non. Après, je sais pas.
Ouais.
Mais
c'est pas pour de vrai, mais
c'est des beaux films.
Mais vous refuserez de le faire.
Je sais pas, non. Après, pour Abdelatif, je pense pas, parce que voilà, j'ai totale confiance en lui, quoi. Ça dépend qui, mais sûr que pour Abdelatif, j'ai 100% confiance en lui.
Non, il faut parler latin.
Et ça dépend du rôle, de l'histoire aussi, voilà, c'est beaucoup. Toutes celles qu'on a citées sont magnifiques, quoi. Enfin, les films sont magnifiques et les rôles sont magnifiques. Et...
En 2006, vous quittez Marseille pour monter à Paris et vous écoutez. Salim Alali, là, ça vous fait penser à quoi, cette musique? Déjà, vous avez envie de danser, déjà.
Oui, à la graine et le mulet, parce que c'est donc dans le film, je danse sur cette musique aussi. Et magnifique, quoi, beaucoup de souvenirs, moments magnifiques, inoubliables.
Il fallait monter à Paris, absolument.
Ouais. Bah, il fallait, oui, pour essayer de trouver un agent, essayer de faire d'autres films. Et
qu'à Paris, que le métier se fait? On peut pas être actrice, acteur en étant un provincial?
Non, c'est compliqué. Je pense qu'il faut être bien installé, en tout cas, peut-être dans sa carrière, pour pouvoir ne plus habiter à Paris. Mais sinon, il faut être sur Paris, bien sûr. C'est là où tout se passe.
Et il faut faire oublier son accent aussi.
Aussi, ouais, que j'ai un peu perdu.
Ça a été du boulot?
Ça a été, ça a été du travail, mais ça va. Je suis contente de l'avoir un peu perdu quand même, parce que...
Est-ce que ça vous ferme des portes pour plein d'autres rôles?
Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est dur même de faire un film d'époque avec l'accent marseillais, les quartiers nord.
Et pourtant, à l'époque,
il y avait aussi des Marseillais.
À l'époque, il y avait des Marseillais.
Ouais. C'est où ? Il y avait des Marseillais, mais c'était un peu compliqué quand même. Par contre, c'est mais l'accent, là, elle est bien, mais l'accent est un peu complexe.
Et venir seul à Paris, parce que.
Pardon, c'est une très bonne idée, ça, sans déconner. Ouais, ouais. Prochain film.
Un KPDP.
KPDP à Marseille avec l'accent.
Quartier nord.
J'adore. Tu fais quoi, enculé ?
Et 2006, c'est beau l'accent. Quand vous venez à Paris, vous êtes toute seule?
Oui, toute seule.
Abandonnée,
Vivre à vous-même.
Quand on est entouré d'une famille, quand on est habituellement un peu choyé.
Ouais, c'était dur un petit peu, de quitter la maman aussi, de dire, il n'y a plus la maman. Je m'inquiétais aussi pour elle. Et d'habiter seule, il n'y a plus. Le frigo est vide, il n'y a plus la maman, il n'y a plus rien.
On cherche des colocs, on a peur du moindre garçon qui s'approche et qui drague. Et qui...
Non, parce que moi j'aime bien être seule, donc au coloc c'était impossible. Mais Paris c'est dur, hein. Franchement c'est une ville difficile.
Mais c'est-à-dire que.
Maintenant je me suis habituée, mais.
Ouais, c'est ce qu'on voit dans le film de Clapiche, c'est-à-dire qu'il y a du monde, mais personne ne se parle directement.
C'est ce qu'il y a dans mon film aussi, le personnage est très seul, malgré. Enfin, quand on est dans une grande ville, c'est un peu compliqué.
Non, mais elle est seule même quand elle est dans une fête où tout le monde s'amuse, où tout le monde rigole, elle est dans une bulle, quoi. On a l'impression qu'elle ne sait pas se lâcher, qu'elle n'enlève pas le frein à main en disant.
Parce qu'elle est. Elle va pas bien, donc c'est dur, on ne peut pas se lâcher.
En 2009, vous écoutiez... C'est là pourquoi cette musique ?
Parce que j'adore cet artiste, donc Nawal Ben Krayem, qui est vraiment magnifique, qui a une voix incroyable et qui écrit, qui est super. Quoi.
Et vous renvoie quelle image en 2009 ? Pourquoi cette musique est 2009 ?
Parce que ça, c'était une période où j'enchaînais un petit peu les tournages, tout ça, et m'apaiser, sa voix m'apaiser. Vraiment, ça m'apaisait.
Et on vous retrouve à deux reprises avec Francis Huster à la mise en scène. La première pièce, Un homme et son chien, en compagnie de Jean-Paul Belmondo.
Oui.
Alors ça doit être une rencontre aussi.
Ah ouais, incroyable. Là, c'est la fierté de la famille.
C'est vrai.
Ma mère, elle a encadré l'affiche et tout avec Jean-Paul Belmondo. Et ouais, non, rencontre incroyable. Bah avec voilà
le magnifique.
Le magnifique. Ah. Un homme humainement sublime et.
Vous l'appeliez comme ça, le magnifique ?
Non, j'avais honte. J'avais honte, franchement.
Vous disiez quoi, Monsieur Belmondo ? Comment vous lui
parlez ? Je crois que je lui parlais même pas. J'avais trop honte. Mais lui venait vers moi, ouais. Il venait vers moi, non, il parlait trop gentil.
C'est quand même l'homme le plus adorable de la planète.
Ah ouais, il est
c'est incroyable.
Un grand cœur, ouais, vraiment. Et Francis Huster, pareil que voilà, j'adore.
Comment vous le rencontrez, Francis Huster ?
Francis Huster, bah, par mon agent en fait. Donc il m'a dit voilà, il y a Francis Huster qui veut te rencontrer. Et c'était une belle rencontre, vraiment. Un homme que j'admire beaucoup.
Vous êtes toujours le même agent depuis le début ?
Oui, toujours.
Une histoire de fidélité.
Ouais, non, c'est important.
Sauf que là, c'est du théâtre, et tout d'un coup, c'est quand même autre chose.
Ouais, c'était un peu dur, ouais, le théâtre. Enfin, moi, je pensais que j'avais jamais fait de théâtre aussi, donc j'étais là, oui, c'est bon, on va faire la pièce, tout ça. Bon, après, j'étais mise en confiance par Francis, et quand on répétait, il n'y avait personne dans la salle ou que quelques personnes, et la première représentation, c'était horrible, quoi.
Ouais. C'est-à-dire, c'était pareil, il n'y avait personne.
Non, il y avait du monde et tout, j'avais peur. Franchement, on a fait la même chose. Horrible, mais franchement, il faut du courage pour faire ça, quoi.
Mais vous l'avez fait ?
Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, j'avais signé un contrat et qu'il fallait aller au bout. Quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur au théâtre ? C'est de reproduire tous les soirs les mêmes scènes ou au contraire d'ailleurs de trouver des choses différentes ? C'est la contrainte presque physique et dans le planning d'être tous les jours au même
non,
endroit
de
jouer ?
Non, c'est pas ça. C'est le faut du courage pour monter sur scène, quoi. On entend tout en direct, il y a parfois des gens qui dorment, qui crient, parce que moi je m'en rappelle, je fais, on n'entend rien, parce que je savais pas, je parlais doucement apparemment, qui regarde leur portable, qui souffle, et ça fait peur. Quoi.
Ouais, à l'époque c'était pas encore la folie du portable, j'imagine, en 2009,
Il y avait, bien sûr. Mais après ça a été une belle expérience, mais franchement, aujourd'hui, tous les soirs je tremblais, on en a fait 100, tous les soirs je tremblais.
Vous n'avez pas remis ça d'ailleurs ?
Non.
Ouais. Et pas envie.
Et vous le referez pas, pardon.
Si, j'aimerais bien, mais voilà. Non, déjà, moins de monde, parce qu'aussi, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué. Enfin. Mais.
Moins de monde, c'est-à-dire.
Et on était, je crois, 13 sur scène.
Ah
c'était
oui, d'accord.
Beaucoup, ouais.
Nous avons Isabelle Duvernoy qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle, vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez écrit Décoder le langage du corps aux éditions Larousse. Pour reprendre le titre du film d'Afsia Herzi, Tu mérites un amour, et un amour ça se mérite, on mérite tous un amour.
Alors c'est une très bonne question, merci.
Bravo.
Bravo.
C'est pas la plus difficile.
Elle est courte, celle-là. Non, mais pas mal.
Non, c'est vrai que le poème de Frida Kahlo est magnifique, il est très inspirant, mais cette formulation est intéressante parce qu'elle suppose que l'amour est en récompense de quelque chose. Et finalement, le mérite, c'est une notion qui est très théologique et souvent associée à la vertu. Et d'ailleurs, c'est ce que reprend un petit peu le marabout dans le film quand il dit « Non, tu t'es pas bien comporté, tu mérites pas qu'ils reviennent. » Parce qu'elle est, sans trop en dire. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que je ne sais pas si l'amour se mérite, en tout cas, il se vit. Fortuitement, lorsque deux personnes, à un moment donné de leur vie, ont des raisons de vivre un bout de chemin ensemble. Et voilà, parce que l'envie est irrépressible.
Tu ne mérites pas, et à l'inverse, tu ne mérites pas mon amour, par exemple.
Tu ne me mérites pas.
C'est de l'amour propre aussi. Non, c'est de se dire, moi, je te donne tout et tu me maltraites. Il y a aussi une question un peu d'amour propre quand on dit tu ne mérites pas.
Oui, bien sûr.
Ce que je suis prête à t'offrir ou ce que je suis prête à t'offrir.
Cette idée de mérite, c'est toujours où l'amour finalement répondrait à une certaine logique d'échange.
Ouais. Comptable.
Alors qu'en comptable, fait, non, l'amour, c'est pas logique, justement. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il arrive, de manière encore une fois irrépressible et dès qu'on y met de la logique, c'est qu'il y a quelque chose de volontaire qui est plus naturel et qu'on peut questionner, du coup.
Alors, est-ce que c'est une question de caractère, où on dit, quand l'amour rend aveugle, de se dire, je l'aime et malgré tout ce qu'il ou elle me fait subir, c'est plus fort que moi, je l'aime.
Alors, dans le lien amoureux, dans la rencontre amoureuse,
et on connaît tous autour de nous des gens qui souffrent et on leur dit mais pourquoi tu restes avec ce mec qui te fait du mal psychologiquement, voire physiquement, parce qu'il y a ceux aussi ou cette fille, tu as raison, il y a ceux aussi qui subissent des violences conjugales. On en parle beaucoup en ce moment, ce qui est pas du tout le cas dans le film, mais les violences psychologiques existent aussi et on ne comprend pas comment les personnes ne se libèrent pas de cet amour.
Alors, dans tout lien amoureux, au départ, il y a une idéalisation. Forcément, c'est ça qui crée l'emballement et c'est ça qui donne envie. Et puis c'est lié au fait que l'autre est davantage fantasmé pour ce qu'on voudrait qu'il soit que pour ce qu'il est réellement, aussi parce qu'on le connaît peu puisqu'on vient de se rencontrer. Et puis, dans une relation équilibrée, qui fonctionne, eh bien, petit à petit, on recouvre la vue. Et au fil des rencontres, on voit quelle est la réalité. Et selon le lien d'attachement et l'envie réciproque, on va intégrer un peu cette réalité et construire une relation qui sera un peu plus sensée, mature.
Ennuyeuse.
Non,
pas forcément.
Mais il faut pas dans une relation amoureuse, il faut penser à soi aussi.
Il faut penser à soi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est quand tout va bien. C'est quand tout va bien parce que c'est André Breton qui avait écrit aimer, c'est rencontrer quelqu'un qui vient me donner de mes nouvelles. C'est-à-dire, en fait, on aime l'autre pour ce qu'il aime, et aussi pour l'image qu'il nous renvoie de nous-mêmes. Ouais. Plutôt positive, hein, des bonnes nouvelles, en fait, en général. Ça fonctionne. Mais lorsque, au départ, on a une image de soi qui est pas forcément très bonne, hein, c'est là où les problèmes vont pouvoir arriver. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on va vouloir aimer l'autre à tout prix, effectivement. Parce que c'est la seule manière de pouvoir éventuellement récupérer un peu d'amour pour soi-même. Et c'est là où il peut y avoir un problème, parce que tout peut être éventuellement accepté, même ce que vous expliquiez, des choses qui ne sont normalement pas acceptables, comme de la violence. Donc là, on est dans quelque chose de pathologique, c'est-à-dire une idéalisation qui au fond devient du déni, finalement, d'une réalité.
Est-ce qu'on change sa manière d'aimer dans la vie, en fonction des expériences, ou on est constitué d'une telle manière qu'on reproduit des schémas?
Non, bien sûr que non, on évolue au fur et à mesure des expériences, si on en intègre quelque chose, si on tire quelque chose, et puis au fur et à mesure aussi, comme je disais juste avant, de l'amour que l'on se porte à soi-même, c'est-à-dire que plus on a de l'amour et plus on a un sens de sa propre valeur, plus on va entrer en relation avec l'autre différemment, c'est-à-dire moins peut-être en recherche d'une réassurance. Finalement, si on s'aime déjà soi-même, être aimé de quelqu'un d'autre, c'est super, c'est un plus, c'est une confirmation, mais on peut aussi, indépendamment de ça, se sentir bien.
Et donc, la jalousie dans tout ça, parce qu'elle est aussi, c'est le moteur, le déclic du film également,
oui.
Elle est inévitable en amour?
Pas forcément, mais bon, c'est un signe d'attachement, mais c'est aussi très en lien à la confiance en soi, encore une fois.
Tout à l'heure on disait qu'elle sommeillait finalement en chacun de nous, cette jalousie, et que c'est quand ça va mal qu'elle explose,
comme
une espèce de cancer comme ça.
Quand ça va mal et quand soi-même on va mal aussi, hein, le plus souvent. Quand soi-même on est fragilisé et que du coup, on peut avoir besoin de l'autre pour se réassurer, l'autre n'est pas présent ou s'intéresse à quelqu'un d'autre, c'est dans ces moments-là que ça peut être difficile. Mais si on va plutôt bien, la jalousie peut être moins forte.
Vous avez votre définition de l'amour idéal?
Oula, j'ai un peu de mal avec l'idéal.
Alors,
je dirais ce que je disais juste avant, c'est-à-dire
celui qui dure pas très longtemps, parce qu'une fois que le voile se déchire et qu'on idéalise moins, il est moins idéal, quoi.
Non, justement, je suis pas tout à fait d'accord. C'est une autre forme d'amour, du coup. C'est vrai qu'au départ, c'est un amour plutôt plus passionné, mais ensuite, l'amour qui se construit, qui est durable avec le temps, est une autre forme d'amour. Ça peut être du compagnonnage, mais qui est aussi avec beaucoup de tendresse, par exemple, mais qui est aussi très précieux, qui est pas forcément moins bien, qui est différent. C'est ce que d'ailleurs je vois souvent au couple que je vois et qui me pose cette question-là.
Il y a une question qui est posée dans le film d'ailleurs. Ça veut dire quoi, je l'aime? Est-ce que tu sais si tu l'aimes? Quels sont les signaux? Ça veut dire quoi, j'aime?
Alors aimer, oui, justement, c'est ce que je disais, on aime aussi parce que à travers l'autre, on se retrouve soi-même, on se rencontre soi-même. Hein. Donc il y a quelque chose de à la fois tourné vers l'autre et tourné vers soi aussi dans l'amour. Faut être assez assez juste là-dessus. C'est plein de choses. C'est un bonheur. C'est surtout une réjouissance. Normalement, c'est censé être surtout une réjouissance.
Merci Isabelle Duvernoy d'avoir apporté votre éclairage. Tu mérites un amour. On en reparle évidemment de ce film d'Avia Herzi jusqu'à 12h30. Tanguy Passureau nous a rejoint. Tanguy, vous jouez au Monopoly qui se féminise.
Comme je prends souvent le rail pour mes spectacles dans un train corail dégueu qui m'emmène en 16h20 dans la banlieue de Mâcon, j'achète les gares juste pour imaginer qu'elles sont à moi et que je pourrais les détruire en hurlant. Alors à propos de Monopoly, oui, on a annoncé l'arrivée hier d'un Monopoly féminin, le saviez-vous?
Exactement, oui, on en parle avec vous juste après les infos de midi. La bande originale. Bonjour. Avec Léla Kadoboudadi, Daniel Morin, Hubert Albourg, Frédéric Siglis, Tanguy Pastureau, Alexis Rossignol, tout ce budget pour Afia Herzi.
Bravo. Bravo.
Tu mérites un amour, un film que vous aviez, que vous avez porté pendant 9 mois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que dont vous nous aviez parlé d'ailleurs ici aussi, parce que vous en rêviez depuis longtemps.
Oui, mais c'est un autre projet dont je vous avais parlé.
Que
vous
nous c'était sur votre maman.
Ouais, c'est ça.
À Marseille.
C'est ça, ouais.
Ça va venir.
Bah j'espère, ouais, j'espère le faire pour 2020. J'espère que ce film-là va aider, voilà.
Pourquoi avoir eu cette idée qui est venue entre guillemets effacer la première?
En fait, j'attendais. Donc, Bonne Mère était financée, mais pas assez. Donc, j'étais en attente de financement et j'en avais marre d'attendre. Et donc, j'avais ce scénario dans mes archives.
Bonne Mère étant le titre de travail de ce film Hommage à votre maman.
Ouais. C'est ça. Et donc, j'avais ce scénario dans mes archives. En même temps, ça faisait un moment aussi que j'avais envie d'autoproduire un film. Et voilà. Donc, l'année dernière, je me suis dit, c'est maintenant, quoi. Arrête d'attendre et fonce. Et donc, c'est devenu mon premier film.
Il y a quand même, entre Bonne Mère et Tu mérites un amour, dans les histoires et dans les titres, que des choses qui trouvent écho dans votre vie et dans ce qui vous motive.
Oui, bah j'ai envie de... Bah, l'amour me passionne, me fascine et m'inspire. Donc ouais, non, j'ai vraiment envie de raconter des histoires qui me parlent, quoi. L'amour, c'est important dans une vie. Sans amour, franchement, je vais pas dire à quoi ça sert de vivre, mais
c'est compliqué, quoi.
C'est triste.
C'est compliqué, c'est triste. Franchement, on a tous besoin d'amour et on mérite tous un amour.
Oh, c'est
sauf les méchants.
Ouais. Tu vois, Daniel,
c'est vrai. J'ai besoin d'amour.
Bon, tu mérites un amour.
C'est vrai.
Non, mais il faut faire des t-shirts avec tu mérites.
On a les t-shirts. Oui, on les a fait. Oui.
Très bien.
Dans votre budget, vous avez réussi à faire.
On a des sponsors.
Il y a 200 comédiens, des t-shirts en voiture, voilà.
Vous êtes en train de ruiner l'économie du cinéma, là.
Et vous avez été... Il y a des sponsors, ouais. Parce que vous avez la même marque en sweat et en t-shirt dans le film.
Oui. Donc, une marque voilà, qui m'a prêté des habits pour le film. Donc, c'est moi qui ai fait les costumes aussi.
C'est vrai?
Oui. Donc, chaque session de tournage, j'allais voir cette marque, emprunter des.
J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur le film, évidemment, parce que vous étiez à tous les jobs.
Un peu tout, ouais. Mais bon, il fallait, j'aime bien. En même temps, j'aime bien. Franchement.
Et vous étiez directive sur le tournage ou nounou?
Ah non, il faut, ouais. Bah, il faut être
il faut
les deux, quoi. Il faut être maternelle et directive, c'est important. J'avais l'impression d'être une maîtresse d'école, un peu.
Ça commence par une déception amoureuse, et puis c'est une jeune fille qui se reconstruit avec des rencontres, avec un travail un peu sur elle, et puis toujours cette espèce d'emprise de cet amour infernal, parce que...
Pour moi, son corps ne lui appartient plus, quoi. Elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, sa tête, c'est... Voilà, une succession d'émotions...
Alors qu'elle rencontre tant de personnes qui la trouvent aimable, qui la regarde avec affection et elle le voit même pas.
Elle le voit pas, mais de toute façon, quand j'ai écrit, je lui disais, on peut même lui ramener Brad Pitt.
Ouais, elle verra.
Ça change rien.
Tu mérites un amour. Afia Herzi, ce film qu'elle porte et qu'elle interprète est en ce moment au cinéma. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, notre société n'est qu'apparence, dites-vous.
Oui, Nagui, il n'y a plus d'idéaux, plus de combats, juste du cynisme. C'est atroce, mais bel après-midi à tous quand même. Tiens, prenez l'écologie. Nous sommes dans l'ère du greenwashing. Ça signifie que tous ceux qui avant n'en avaient rien à faire de la planète, les multinationales, les États, ton député, ta petite nièce, maintenant font semblant de s'en préoccuper parce que c'est tendance. Et si demain Greta Thunberg se met à voler, un jour où elle aurait trempé ses nattes dans de la coke et qu'elles feront l'hélice, tous ces cons-là sauteront du 7e étage. Regardez le chef amazonien Raoni. Il y a peu, il a participé au campus En Marche. Il a croisé Stanislas Guérini, le boss, Elisabeth Borne, Édouard Philippe. On ne sait pas ce qu'il a fait parce que ça ressemble à une punition. Un camp dans la fondue, on perd un crouton, Gérard Collomb. Ou du pain. Les copains se mettent à hurler un gage, un quart d'heure avec Stanislas Guérini. Le compte Twitter d'En Marche s'est empressé de poster des photos de Raoni avec la moitié du gouvernement. On voit le pauvre vieux en train de causer à des types plus préoccupés par le fait qu'un ministre fou a traité Brigitte de sorcière qui pue du bec, parce qu'on en est là, que par la destruction de la forêt amazonienne. Ensuite, le service de com a posé l'iPhone, Castaner est arrivé, a mis des cacahuètes dans la soucoupe de Raoni et a crié « Allez, fini de chouiner, c'est la fête, on danse la Macrona !» C'est la danse des macronistes, créée lors de la prise de pouvoir du bébé, qui consiste à prendre une poupée gonflable de François Hollande, se mettre derrière et la sodomiser jusqu'à éclatement. Tout le long, la poupée sourit d'un air béat afin de ressembler le plus possible au quinquennat de François Hollande.
Mais t'es dingue.
Pareil avec les femmes. Depuis le mouvement MeToo, tout le monde est là à dire « Ouais, les femmes, c'est super. » Alors que bof, la femme est très surcotée. Pardon, mais pour une Simone Veil, combien de blogueuses mode Et puis, c'est aux femmes que l'on doit la discographie de Calogero. La femme, qui est aussi médiocre que l'homme, devrait donc, niveau taf, toucher la même chose. Sauf que non, à la fin du mois, elle a 18,5% de moins en France, à travail égal. Sauf Ariel Dombal, qui vit perché tout là-haut et qui est rémunéré en licorne. Donc là, nous les mecs, si on touchait 30 centimes d'euros de moins que les femmes, dans le quart d'heure, on serait devant le ministère du Travail. Et on crierait au ministre inconnu qui dort dedans, file-nous le blé, nif-nif. Sinon, on envoie Daniel Morin souffler sur ta maison à 7h05, alors qu'il a déjà 9 cafés dans le colon, son haleine va faire fondre l'édifice. Mais la femme est douce, à part Martine Aubry et Elena Ceausescu en son temps. Elle a intégré ce qui est la première des discriminations. Parce qu'il n'y a pas de raison que Daniel, Albert, Frédéric, Alexis ou moi qui avons des pénis, plus ou moins fripés selon nos âges respectifs, touchions plus que Leïla qui, a priori, n'en aurait pas. J'emploie le conditionnel parce que on se connaît finalement peu dans l'équipe. Il a manqué à cette journée à Clairefontaine la nuit qui suit. Si un pénis vaut 500 euros de plus par mois, il faut le dire tout de suite. Parce que moi, je mets le mien en vente sur le bon coin. Si quatre copains me filent le leur, je pourrais m'acheter un iPhone 11 Pro. Bref, les femmes dans notre société restent discriminées. Scarlett Johansson touche la même chose que son partenaire mâle, mais si vous bossez chez Leclerc et que vous dites ça à votre chef de rayon, il va pas réussir à se projeter.
Mais il n'y a aucune avancée selon vous ?
Si, quand même. Hein, comme les marchés refusent de bouger, on calme tout le monde avec des symboles. Exemple, hier a été annoncé l'arrivée du Monopoly féminin. Ouais. Vous voyez le Monopoly, hein, ce jeu où on gagne plein d'argent, on achète tout, puis on est ruiné, on finit en prison. C'est la biographie de Bernard Tapie, mais avec des pions. Bon bah là, c'est pareil, hein, sauf que la femme qui joue a plus d'argent au départ que l'homme et touche plus quand elle passe par la case départ. C'est-à-dire que comme dans la réalité, elle se fait enfler, on lui a créé un jeu pour lui faire plaisir quand même. C'est bien fait. Ensuite, il y aura la bonne paye pour les gens pauvres. Ainsi, hein, il y joue, on dira à Philippe Poutou, désolé vieux, c'est pas facile la condition ouvrière, il faut aimer les nouilles et le beurre, comme ça on peut faire des nouilles au beurre. Bon appétit, bien sûr. Hein. Mais consolation, à la bonne paye, tu démarres avec 1000 euros. Réjouis-toi, on lui dira, parce que Bernard Arnault a 15 euros seulement. Et on va pouvoir faire ça avec tous les jeux, le racisme. Il y aura un docteur Maboul qui repère votre couleur de peau. Si vous êtes blanc, ça sonnera dès que vous entrez dans la pièce. Si vous êtes noir, vous pourrez défoncer le patient à coups de sécateur, il n'y aura pas un bip-bip. Alors à noter que dans le Monopoly féminin, on n'achète plus de terrain, mais des inventions qui ont été créées par des femmes, comme le Wi-Fi. Ça a été inventé par une femme, Jacqueline Wi-Fi, décédée un quart d'heure plus tard d'un cancer du cerveau. C'est-à-dire que même là, pour y figurer, il faut que la femme ait créé un truc. Elle ne peut pas juste être. 14 concours l'épine de gagnant, on commence à vous dire, bébé, quel parcours, j'avais presque oublié que t'étais une femme. Non mais nous vivons une époque où il n'y a plus que des symboles, jamais d'actes. Vous savez le chef Raoni, ce qu'il a dit au Monde, le journal Le Monde, le 9 septembre, deux jours après le campus En Marche, il a dit donc on lui dit, ça va quoi, retire ta soucoupe. Il l'a fait, il a dit, ah, je me sens mieux comme ça. Et il a ajouté, ils m'ont dit en France que l'argent promis pour dans un mois mettrait beaucoup de temps à arriver, je suis fatigué de toutes ces promesses qui n'aboutissent pas. Il a raison, avec ou sans soucoupe, cessons de causer et agissons, sauvons la planète, payons ce qu'on leur doit aux femmes, parce que c'est plus les doigts qu'on a à sortir là, c'est le bras entier.
Bravo.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Et Tanguy Pastureau sera le 5 octobre à Saint-Georges de Didonne, à côté de Royan, en Charente-Maritime.
Ça vous dit quelque chose?
Ouais, j'adore. J'ai passé pas mal de temps enfant.
Allez, question sur ce qui se passe dans le monde de la culture avec Kristen Stewart. Et vous pouvez essayer de deviner ce qui se passe. Notamment, on a conseillé. On a conseillé à la comédienne.
Déjà, moi, j'ai caché sa bisexualité pour pouvoir travailler dans un Marvel.
Okay.
On a un spécialiste.
Je pose même plus la question.
C'est une question Marvel.
Je dis Kirsten Stewart, et ça y est, tu te connais le dos.
Ça valait vite le jeu.
C'était soit ça, soit elle disait que Robert Pattinson ferait un bon Batman. C'était les deux trucs qu'elle a dit.
Mais c'est fou cette histoire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de dire qu'elle est bisexuelle.
En même temps, c'est gênant.
Oui.
Mais en même temps, tout le monde le sait.
Bah ouais.
Oui. Je comprends pas. Donc,
mais en fait, c'était pour décrocher un rôle dans une production Marvel, parce qu'ils imaginaient que ça serait rédhibitoire. Or, comme maintenant, Marvel cherche justement à mettre en avant des personnages issus de la communauté LGBT, ça aurait plutôt été un plus. Mais bon.
Avia, on vous a. C'est étrange. Et surtout, qu'il n'y ait pas de cloison entre l'être humain que vous êtes et le rôle que vous devez interpréter ou les productions. On vous demande, par exemple, pour certains rôles, de ne pas faire telle ou telle déclaration, je sais pas, ou de faire attention à ce que vous dites. On vous met des conseillers en communication.
Non, pas du tout, parce que de toute façon, j'écoute pas.
Je fais ce que je veux.
Je fais ce que je veux, voilà. Mais ouais, non, c'est bizarre, quoi, c'est n'importe quoi.
Bah, c'est que le comédien ou la comédienne, en l'occurrence, est devenu un produit, donc une sorte de symbole, d'emblème. Ça dépasse le cadre habituel.
Non, puis là, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais enfin, c'est quand même choquant de dire à quelqu'un, t'es gentil, tu vas te taire et tu dis rien, tu fais le rôle.
Que tout le monde le sait.
Francis Huster, que vous connaissez bien, vient de lancer une pétition, mais pourquoi?
pour Molière.
Attends, Asia, vous avez une raison.
Franchement, aucune idée, parce que j'ai plus de vie depuis le film.
Ça concerne la bisexualité ou pas?
Je ne sais pas.
C'est en lien avec Molière, avec un...
Exactement.
Je sais plus.
Pour restaurer la tombe de Molière.
Non. Par rapport à la Comédie française.
Pour détruire la tombe de Molière et faire un petit parking dessus.
Non, mais c'est un rapport avec ça.
Réhabilité.
Qui est une avenue Molière.
Exactement.
Ah ouais, bravo.
Exactement. Pour faire entrer Molière au Panthéon.
Ah oui.
Et non pas lui-même.
Encore. Ben, suivant.
Un graffiti vient d'être volé à Beaubourg.
À Banksy.
Ouais.
Ok,
ouais.
Bah, tout le monde est au courant. Rendez-le, soyez ça. Quel est le point commun entre Les Dents de la Mer, Coup de foudre à Notting Hill et Homeland, la saison 1 et 2?
Francis Huster.
Non.
Bruce.
Les Dents de la Mer, Coup de foudre à Notting Hill et Homeland, les deux premières saisons.
Une histoire d'orthodontie.
Point commun, non.
C'est en lien avec le nombre de spectateurs.
Non.
Homeland.
Même réalisateur.
Il y avait de l'eau.
Coup de foudre à Notting Hill.
Les Dents de la Mer, Coup de foudre à Notting Hill.
C'est des films qui vont être mis au goût du jour.
Non.
C'est des remakes, non.
C'est des films qui vont être non.
Déclinés en série, non.
Pas loin.
Ouais. Ah oui. Remake, fait en série télé.
Pas détruit, non.
Netflix, non.
Oui, exactement, qui vont être retirés de Netflix.
Ah, bon ah.
Exactement.
Pourquoi
bah parce que non, c'est pas trop violent. C'est dans les en termes de droits et avec le nombre de plateformes qui commencent à exister, chacun récupère ses droits pour dire ah bah non, maintenant c'est à moi.
Il y a Friends qui... aussi qui quitte
exactement,
Netflix
exactement.
De Disney. Ou
et c'est ce qui se passe avec Disney qui récupère tous ses films en disant si vous voulez les voir, il va falloir prendre notre ah mais ça, on n'aura que des abonnements pour pouvoir voir des films. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre tablette ou ordinateur pour voir des séries? Est-ce que vous êtes
non, pas du
accro
tout.
À ça?
Non, c'est cinéma.
Cinéma, mais il faut être dans une salle.
Oui, je préfère, sinon c'est compliqué. Ouais.
Mais vous avez, il y a bien des copains, des copines qui vous ont dit il faut absolument que tu regardes ça, non?
Oui, mais du coup, je regarde pas. Non, c'est cinéma. Ouais.
Elle écoute pas. Elle écoute
j'ai
pas,
beaucoup
elle
de respect pas. Pour le cinéma. Si, si, c'est vrai.
Après le succès de Bohemian Rhapsody, vous l'avez vu ou pas, Bohemian Rhapsody?
Oui, oui, bien sûr.
Énorme. Hein.
Au cinéma.
Ouais. Bah, évidemment, il est pas encore. Ah si, ça passe, je crois, à la télé.
Ah bon, déjà
il me semble, ouais, où ça va passer. Bon, donc, après le succès de Bohemian Rhapsody, un nouveau biopic est annoncé, il devrait s'appeler Stardust, autour de la vie de David Bowie. Avant même sa sortie, on sait déjà qu'il aura une particularité musicale.
On l'entendra pas parce qu'ils ont pas les droits.
Exactement.
Ah ouais, non, c'est
je te jure. Aucune chanson de Bowie dans le film.
C'est une bonne idée.
Oui, sympa.
À la place, il y aura Peter.
Et pourquoi ils n'ont pas demandé les droits
Parce que le fils de David Bowie, détenteur des droits musicaux, a précisé que les producteurs n'avaient pas réussi à obtenir les droits de l'œuvre de son père. Je ne dis pas que le film ne se fera pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je dis juste qu'en l'état des choses, le film n'aura aucune musique de mon papa. Et je ne pense pas que cela changera. Si vous voulez voir un biopic sans sa musique et sans la bénédiction de la famille, c'est votre choix.
Ah ouais.
Apparemment, il n'assume pas tout ce qu'il a raconté dedans.
D'ailleurs, ça ne s'appellerait même pas David Bowie, finalement.
Je ne sais même pas le... Non, Stardust.
Stardust,
le titre. Voici Frédéric Sigrist. Là, devant toi, c'est lui.
C'est moi, c'est vous, Daniel.
Pas mal.
Bonjour à tous. Alors, je voudrais revenir sur la polémique du moment concernant le racisme anti-blanc et le racisme anti-noir, parce qu'en tant que métis, c'est un sujet pour lequel je me sens qu'à moitié concerné. Alors, tout est parti, rappelons-le, des cris de singe poussés par des supporters de foot contre un joueur noir qui, en réaction, a voulu quitter le terrain. On le comprend, l'homme descend du singe, mais certains supporters de foot ont raté des branches. Et ça, je veux dire, cette histoire, on n'en aurait jamais entendu parler si Lilian Thuram, qu'on peut imaginer légèrement concerné, car je vous apprends rien en vous rappelant que Lilian Thuram est footballeur. Footballeur
aussi.
On n'en aurait pas entendu parler si Lilian Thuram n'avait pas commenté cet épisode malheureux en disant qu'il y a du racisme dans le foot et que les blancs se sentent parfois supérieurs. Oh là 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 là, oh malheureux. Qu'est-ce qu'il a pas dit? Les blancs, parce que c'est pas supérieur qui a posé problème, parce que ça, tout le monde était d'accord, c'est les blancs. Il a dit les blancs. À ce moment précis, tous les blancs de la planète se sont retournés comme un seul homme en disant « c'est de moi qui parle ?» Mais il aurait fallu qu'ils disent « des blancs, des, ou même mieux, dix blancs ». Comme ça, le temps qu'on sache lesquels, il était tranquille. Pour une erreur d'article, combien d'articles de presse depuis? Parce que alors depuis 15 jours, c'est un festival. Derrière les blancs de Thuram, certains commentateurs ont cru déceler un projet. Pierre Ménès, la Rosa Parks du peuple blanc, nous a même expliqué que son fils avait été victime de ce projet raciste avec des miliciens noirs déguisés en footballeurs qu'il avait délibérément exclu parce qu'il était mauvais. Mais surtout, blanc. Mais il fallait bien que ça arrive, j'ai envie de dire, c'est normal. Après le blues, après le rap, qu'est-ce qui restait à piller chez les Noirs? La position victimaire. Voilà, ça y est, on y est. Moi, je suis persuadé que dans un avenir proche, pour sensibiliser les élèves à l'horreur du racisme, on fera visiter l'île de Gorée et les vestiaires du club du fils de Pierre Ménès. Hein, il y aura quelqu'un qui sera devant. Et voilà, vous avez devant vous le casier de l'oncle Tom. Prochaine étape, t'as des antiracistes blancs qui vont attaquer des livres roux pour discrimination. Nous aussi, on veut faire des boulots de merde pour des salaires de misère. Alors attention, je ne dis pas que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, j'ai grandi dans un quartier où effectivement, statistiquement parlant, c'était souvent des petits blancs les victimes. Mais c'était des dommages collatéraux. On visait les Nike et il y avait toujours un blanc dedans. Idéologiquement, c'est gênant. Mais comme me disaient mes potes, ils disaient, bah, en même temps, si t'as des parents prêts à claquer 900 balles dans une paire de grolles, ils auraient pu faire pression pour la carte scolaire. Ça se défend. Donc oui, le racisme anti-blanc existe, mais il s'est pas encore professionnalisé. Il faut arrêter de penser que c'est un système, ça reste amateur. C'est un hobby. Laissons-lui le temps. Sauf que pour l'instant, si on veut vraiment parler du racisme anti-blanc, il est au racisme anti-noir ce que le panari est au cul-de-jatte. C'est-à-dire, c'est douloureux, ça gêne pour avancer, mais si tu compares, tu peux quand même pas vraiment te plaindre. Cette histoire s'est allée tellement loin qu'on en est désormais à sérieusement se demander c'est quoi le pire dans un stade ? Un supporter raciste ou un supporter homophobe ? Noël le Gret, hein, le chef du football français, a la réponse : cri de singe, on arrête le match, homophobie, on continue de jouer. Et là, je me suis posé la question, c'est qui va décider ça ? Il va y avoir un arbitrage audio ? Michel, d'après toi, on t'encule. Oui, c'est du Guillermo Guise, mais dans le fond, c'est raciste ou c'est homophobe ? Non, parce que c'est important, parce qu'il reste 20 minutes de match, là, j'arrive pas à trancher. D'ailleurs, Nagui...
Oui, Frédéric.
Non, je laissais juste un blanc dans la conversation pour ne pas qu'il se sente exclu.
Oh, joli. Merci, Frédéric.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Avia Herzi, dans Tu mérites un amour, est-ce que vous vous êtes donné des limites, justement, à montrer des choses, des cadres, une forme de pudeur aussi, parce que c'est un film qui peut être visible par tous les publics et qui parle d'amour et qui le montre, cet amour aussi.
Oui. Non, aucune limite. J'avais vraiment envie de... J'ai vraiment pensé à moi, mon plaisir de... Voilà, ce que j'avais envie de voir, en fait, et de filmer. Et voilà, vu que c'est quand même... assez doux, voilà, je voulais quand même de la sensualité, de la douceur et filmer l'amour avec voilà, cette douceur-là.
Et si ça avait été le même scénario filmé par quelqu'un d'autre, vous pensez qu'il y aurait eu des grosses différences ?
Ah oui, déjà filmé par un homme, ça aurait pas été pareil, c'est sûr.
C'est-à-dire ?
Ah, je pense que ça aurait été moins doux peut-être, moins doux, moins romantique, moins impudique aussi. Au niveau des sentiments, peut-être.
Quand vous êtes dirigé par un homme ou par une femme, vous sentez une différence de travail, de cadre, de...
De
douceur, justement.
Dans la direction d'acteur, non, pas du tout. Mais dans les films, oui, franchement. J'arrive à reconnaître le film d'un homme et d'une femme, oui. Ouais.
Tu mérites un amour, en tout cas, homme ou femme, c'est agréable à le voir, avec Giannis Bouziani, Jérémy Laheurte.
Je l'adore, moi, il me...
Bah, tu vas pas gémir chaque fois que je donne son nom.
Mais je l'adore.
Jérémy Laheurte.
C'est vrai que tu gémis beaucoup. Ouais,
Anthony Bajon, Sylvie Vered, Karim Allemande, Myriam Djelej, entre autres, il y a un casting. Oui.
Et tout ça pour 1000 euros, allez-y.
En tout. Pour la bagatelle.
Réalisé, écrit, produit, interprété par Afsia Herzi. C'est elle qui fait tout et qui le fait bien. Tout l'inverse.
T'as laissé un blanc.
Ouais.
Ouais, bah, c'est pour rendre hommage à Frédéric Céguste.
j'ai laissé un blanc parce que je ne sais même plus. Exactement. Oui, non, c'était ça va. Ce que vous aviez retenu.
Tu nous as fait un petit AVC. Là.
Non,
parce qu'on pourra avoir les pompiers.
J'ai fait un blanc. Ce que vous avez retenu de cette émission, Alexis Le Rossignol.
Alors, bah, j'ai retenu ce que Daniel vient de dire, c'est qu'avec 1000 euros, on peut faire des choses incroyables quand on en a la volonté, quoi. Tout simplement, c'est l'exemple, en fait.
C'était pour donner aussi de l'espoir à des jeunes, ce film.
Oui.
Vraiment à des jeunes, à des gens qui ont envie de cinéma et de créer, voilà, rien n'arrête l'art.
Tanguy?
Moi, je retiens aussi qu'avec 1000 euros, on peut payer Alexis Le Rossignol pendant 3 ans et demi à France Inter.
J'ai retenu que Afsia comédienne offre des machines à laver, Afsia productrice, elle dit non, rien que dalle.
Non, je rigole.
Albert Algou.
Eh bien, et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie avec toutes les horreurs dont elle s'accompagne. C'est une phrase de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, et j'en ai retrouvé des échos dans ce très beau film. Et c'est le compliment que je voulais faire à Afsia.
Merci.
Daniel Morin.
Bah, un sujet très violent, très compliqué, tourné avec une
très très grande délicatesse. C'est le meilleur film que j'ai vu de la semaine, peut-être parce que c'est le seul aussi.
C'est ce qui fait de mieux en termes de compliments.
Leïla, je ne vais pas redire Janis Bouziani pour que tu gémisses.
Si, je pourrais dire que je l'adore, et surtout que ce film m'a donné cette sensation de d'assister simplement à un moment de vie. Donc il y a une proximité qui est vraiment dingue, et je trouve que je suis très heureuse que ce premier film soit si bien accueilli partout, parce qu'il n'y a pas que nous qui l'avons aimé.
Ouais,
il y a
réussi,
des papiers super. J'ai hâte de voir la suite de Avdia Erzi en tant que réalisatrice.
De votre œuvre. Et qu'aimeriez-vous justement entendre de la bouche d'une spectatrice ou d'un spectateur sortant de votre film?
L'émotion, voilà. Elle a été émue. Mais genre, j'entends beaucoup, c'est ma vie. Ça m'arrive en ce moment.
Ouais, ça parle, ça trouve écho.
Ça parle à beaucoup de gens, franchement.
Même si c'est pas exactement des choses que l'on a vécues, en tout cas, on peut les comprendre comme étant une amie qu'on aimerait un peu protéger.
Tout le monde les comprend, même les hommes, les femmes, et à tout âge, vraiment.
Daniel, Morin, des excuses à présenter.
Oui, absolument. Alors, désolé déjà pour toutes les personnes qui croiseront Alexis Le Rossignol dans des circonstances compliquées, dangereuses, voire violentes, et qui ont découvert ce matin qu'elle ne pourrait jamais, jamais compter sur lui. Alors nous, on le connaît, hein, physiquement et moralement, on est beaucoup moins étonnés, on sait qu'il est lâche. Allez, viens là, que je te donne une passée, petite traînée.
Mais ça va pas, non ?
Oh, je me lâche. Désolé pour tous les enseignants, les parents responsables, la médecine du travail, le CSA, les ligues de vertu, bref, tous ceux qui ont trouvé que l'on en faisait un peu trop ce matin, notamment sur la promo du Poppers, d'Ophélie Winter et de la petite maison dans la prairie. C'est pas faux, en même temps c'est vrai qu'on est tous défoncés ce matin, merci Leïla. Désolé pour la direction de France Inter, celle de France Télévisions, les parents de Leïla qui ont découvert ce matin une employée, une enfant complètement en roue libre, avec ses garde-priage, ses vidéos chat concombre, sa peur des noirs. Ne manquez pas son prochain JT, c'est demain, avec le fameux sujet sur les noirs qui prient le dieu concombre. Allez les gars, plus que 24 heures et 30 minutes, on a hâte.
C'est à 13h.
Demain. Merci à Javier.
Merci à vous.
Et bravo. Lundi, nous recevrons dans la bande originale Florence Pernel, qui retrouve les planches au théâtre. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Pardon pour ce retard. Bonne journée sur Inter.